Bonjour à toutes et à tous. Je pense que le micro a l'air de fonctionner. Ouais. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci pour d'avoir cette occasion, de me donner cette occasion aussi de pouvoir partager ce moment pour louer le Seigneur dans la reconnaissance, dans célébrer qui est notre Dieu, comme on a pu le faire ce matin. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous transmettre les chaleureuse et fraternelle salutation des frères et sœurs de l'église du CEP à Marseille. Ce matin, j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu, on va le faire dans l'évangile de Jean, autour d'une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un disciple de Jésus. Alors pourquoi cette question? C'est parce que c'est intéressant de constater que dans le Nouveau Testament, quand on parle de quand la parole de Dieu parle de quelqu'un qui suit Jésus, elle va rarement employer le mot qu'on emploie, nous, dans notre vocabulaire courant de chrétien. En fait, le mot chrétien n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament, alors qu'elle emploie, mais de manière beaucoup plus fréquente, le mot de disciple pour suivre Jésus. C'est plus de 250 fois l'apparition du mot disciple de l'utilisation du mot disciple dans le Nouveau Testament. Alors, loin de moi de dire que du coup, il ne faut pas utiliser le mot chrétien, bien sûr que non. Mais du coup, ça nous porte à être attentifs à qu'est-ce que veut dire réellement que le mot de disciple, qu'est-ce que ça porte dans notre identité de chrétien que d'être disciple du Seigneur Jésus. Et alors, avant de rentrer dans les textes qui vont parler de ça, c'est le mot disciple, c'est un mot, alors dans le texte original, c'est évidemment un mot grec, c'est un mot qui veut dire qui se dit mathétès. Alors mathétès, ça ne nous dit pas grand-chose, pourtant il y a un mot très très connu qui en est dérivé. Hein. Quand on entend mathétès, si on le fait un peu plus court, vous avez maths, non? Les maths, les mathématiques. En fait, c'est un mot effectivement qui est de la même famille. Mathétès et mathématiques, ça vient du même mot. Et il y a quelque chose d'intéressant dans les mathématiques, dans le fait que mathétès, c'est un mot qui veut dire quelque chose qui a dû lié à apprendre, à être formé, à être instruit dans quelque chose. Et quand on apprend les mathématiques, il y a quelque chose de particulier. Alors à l'école, je ne sais pas, si tout le monde n'aime pas, il y a peut-être des mauvais souvenirs avec les maths à l'école, mais il y a une pédagogie particulière à avoir dans les mathématiques. On ne peut pas juste apprendre comme en histoire-géographie, des dates, des lieux, des noms de rois, etc., et qui vont dans une connaissance rentrer dans notre cerveau, puis on va recracher la connaissance. Les maths, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas apprendre une liste de formules et tout savoir résoudre les problèmes de mathématiques. Si on veut savoir apprendre à résoudre un problème mathématique, il faut qu'il y ait quelqu'un, un maître, un prof, qui nous entraîne à faire l'exercice au départ avec nous. Il y a une question de modèle, une question dans laquelle appliquer la formule, appliquer une solution pour résoudre le problème, il faut quelqu'un qui nous amène avec lui, en fait, pour faire l'exercice. Puis en fait, en réalité, pendant longtemps, dans les études, que ce soit primaire, collège, lycée ou plus tard, on n'est pas très autonome en mathématiques. On ne fait que reproduire en fait, les exercices que l'on a appris à faire en utilisant les techniques, les solutions. Et d'ailleurs, en maths, ça marche si on répète, on refait le même exercice. Et ça ne marche pas tellement avec de la mémorisation, de la mémoire. C'est la pratique, en fait, qui fait qu'on va s'en sortir. Et il y a quelque chose de trop intéressant là derrière. Parce que le disciple, c'est pareil. Dans ce mathétès du disciple, il y a besoin qu'un maître. Le disciple, il a besoin d'un maître. Il n'est pas disciple sans un maître. Un maître qui va l'embarquer avec lui montrer, lui faire avec lui, en fait. Et par les échecs répétés, et puis on finit par arriver à progresser. Un progrès avec le maître, en fait, il y a quelque chose qui va former le disciple. Le maître, bien sûr, quand on parle de disciple de Jésus, c'est Jésus, Jésus-Christ lui-même, évidemment, qui est le maître, qui a eu ses disciples sur terre, évidemment, il y a quelques siècles de ça. Et dans la suite, effectivement, on est appelé à suivre ce modèle du maître. Il y a quelques années, il y a même commencé à faire pas mal d'années, j'avais une vingtaine d'années, avec un ami de l'Église qui avait mon âge, on sentait un besoin de formation. un besoin de maître. Bien sûr, le maître, c'est notre Seigneur Jésus, mais on sentait qu'on avait besoin d'apprendre un peu plus, et ce n'était pas dans les églises que l'on fréquentait, ce n'était pas la mode d'envoyer dans un institut biblique ou une école biblique, ce n'était pas trop l'habitude. Et du coup, on était allé voir quelques frères plus âgés, plus expérimentés que nous, pour leur demander un coup de main, à faire un petit programme de formation. Et on avait cherché un nom à cette formation. Et on s'était gratté un peu la tête, comment on va appeler ce petit programme? Et on avait fini par l'appeler FDJ, ce n'était pas Française des Jeux, c'était Formation Disciples de Jésus. Justement quelque chose dans lequel cette conscience d'avoir besoin effectivement du maître. Alors, pour en savoir un peu plus et approfondir ensemble ce matin sur qu'est-ce que ça veut dire derrière un disciple, je vous propose de l'apprendre du maître lui-même, c'est-à-dire de Jésus-Christ lui-même, quand il va le dire lui-même dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, à plusieurs reprises, le Seigneur Jésus va définir ce que c'est que l'identité d'un disciple. Et on va prendre trois passages et je vous propose d'ouvrir l'évangile au chapitre Jean, au chapitre 8 d'abord. Un premier texte, un premier court texte, Jean au chapitre 8. Et on va le lire, c'est Jean chapitre 8, les versets 30 à 32. Je ne sais pas s'il y a possibilité de l'afficher. Ah, merci. Donc Jean, chapitre 8, verset 30. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Déjà jusque-là, ce premier texte. On est à un moment où Jésus est en train de discuter dans le public. Il est dans son ministère public. Il est d'ailleurs dans le temple à Jérusalem en train de discuter. Et c'est une période de la vie du Seigneur où il y a beaucoup de questions sur son identité, qui il est vraiment. Et les gens se posent des questions. Et les autorités du peuple, les personnes qui sont instruites dans les lois de Moïse se posent aussi des questions. Et ça va entraîner d'ailleurs des certaines controverses, parfois même une hostilité qui va commencer à l'égard de notre Seigneur Jésus. Au chapitre 8, d'ailleurs, le Seigneur, dans ses discours publics, va dire qu'il est la lumière du monde. Il commence à y avoir un certain positionnement du Seigneur qui va affirmer qui il est. C'est aussi dans ce même dialogue avec ses auditeurs qu'il va affirmer qu'il est celui qui est. Il rappellera même la manière dont Dieu s'est présenté, s'est manifesté à Moïse dans le buisson ardent. Donc, Jésus est en train d'affirmer qu'il est bien plus qu'un simple maître rabbin qui instruit dans la loi de Moïse. Il est bien plus qu'un simple prophète qui parle au nom de Dieu. En réalité, il est Dieu lui-même. Bien sûr, ça fait réagir. Mais il est intéressant de noter que notre passage note au verset 30, hein, comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément de 100% d'opposition, mais quand le Seigneur affirme qu'il est la lumière du monde, il y a quelque chose qui, en présentant pourtant une identité forte, certains sont intéressés. Alors la suite du texte, en fait, du chapitre, va nous apprendre que cette croyance, cette peut-être début de foi, était quelque chose d'un peu superficiel. C'est une croyance sans doute qu'on peut affirmer comme un peu intellectuelle. Il y a quelque chose, tiens, c'est intéressant, cette personne s'affirme, et pourquoi pas, je peux le croire, pas le croire, mais on comprend que c'est quelque chose de détaché par rapport à la vie de celui qui est en train d'être auditeur. D'ailleurs, quand le Seigneur va continuer dans le chapitre en impliquant des conséquences pour les personnes qui sont en train de l'écouter, notamment des conséquences dans le fait que ces personnes avaient besoin d'être en fait libérées, la vérité vous rendra libre. Le Seigneur va continuer là-dessus en disant « Mais vous avez besoin d'être libéré. » Et là, ça va être un peu plus dur. « Je veux bien croire que tu es quelqu'un, mais que ça a une implication pour ma vie. » Oh, doucement, tu es un peu intrusif dans ma vie, là. Pourquoi j'ai besoin d'être libéré? Et en fait, la suite, j'ai besoin d'être libéré, pas de n'importe quoi, de mon péché. Et le texte va explicitement parler du péché. Et le Seigneur est là, parce qu'il sait combien ses auditeurs avaient besoin d'être libérés du péché, ce que le Seigneur fera quelques mois plus tard à la croix. Et là, par contre, ces mêmes personnes dont on parle, ils ont peut-être commencé à croire, on comprend que c'est superficiel, parce que c'est parmi les mêmes qui vont commencer à lui jeter les pierres à la fin du chapitre. Donc on voit qu'il y a une nuance entre croire de manière intellectuelle, superficielle, peut-être adhérer à un concept, pourquoi pas, quelque chose, une différence de quelque chose qui va nous impliquer profondément dans notre vie personnelle. Et quand le Seigneur va parler d'un disciple, de ce que c'est qu'un disciple, ici, dans ce qu'on a lu, il a dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment des disciples. » Quelque chose qui implique, quelque chose qui parle de demeurer. C'est pas, on n'est pas en train de comprendre, apprendre quelque chose de manière intellectuelle. On parle de demeurer. Demeurer, c'est un mot fort, c'est un mot d'habitation. C'est pas pareil de venir, je sais si vous avez ici des personnes qui viendraient en dehors de Marseille, venir une fois en vacances sur le Vieux-Port et dire « je connais Marseille ». Je connais Marseille parce que je l'ai visité de temps en temps. Ah, mais ça n'a rien à voir d'être un habitant de Marseille depuis des décennies. Je ne sais pas, plusieurs d'entre vous, ça fait des sacrés nombres de décennies que vous habitez à Marseille. Moi, peut-être un peu moins, mais quand même, c'est en 1998 que je suis arrivé à Marseille. Donc ça commence à compter un tout petit peu pour connaître un petit peu Marseille. Et là, on demeure. On connaît les petits passages, les quartiers, les habitudes, les codes de la ville. On sait comment fonctionner dans la ville de Marseille. Là, il y a quelque chose de complètement différent entre connaître, oui, quelques notions culturelles qui sont là, à vraiment habiter. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Habiter, demeurer avec le Seigneur Jésus, dans sa parole, dans son instruction. Il y a quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus profond. Je peux prendre une autre image encore. L'image d'une maison, puisqu'on parle de demeurer. Une habitation, une maison. Le Seigneur nous encourage, là, en tant ce qui définit le disciple, c'est un lien avec son maître et son instruction qui fait comme si les choses venaient habiter, en fait, en nous. En demeurant dans la parole, en réalité, elle vient dans tous les aspects de notre vie. Des fois, dans notre vie de chrétien, on a tendance à ouvrir une pièce de la maison, le salon, par exemple, où on accueille les visiteurs. Et le Seigneur peut être invité à rentrer dans notre salon. Mais il y a tas d'autres pièces dans notre maison. Dans notre maison intérieure, vous avez l'endroit où vous vous occupez des papiers administratifs, où vous prenez vos décisions. Des fois, c'est un bureau ou un coin du salon dans lequel vous faites... Là, il y a des choses qui peut-être se dessinent dans les projets. Et le Seigneur, quand il parle d'être disciple, être ses disciples, ça veut dire lui donner aussi accès à tout ça, nos projets, nos décisions importantes dans la vie. Et la parole de Dieu est... On est encouragé en tant que disciple à qu'elle pénètre dans les aspects aussi des grands moments, des choix dans la vie. Puis il y a la cuisine aussi. On peut ouvrir la cuisine. La cuisine, c'est où on fait les choses un peu du quotidien, les nécessités du quotidien. On y prépare les repas qui sont effectivement nécessaires au quotidien. Et le Seigneur nous encourage en tant que disciple à lui donner aussi, pas que les grandes décisions de la vie, mais aussi les petites choses du quotidien, les choses qui sont récurrentes là et qui sont... on est appelé à les vivre aussi comme disciples du Seigneur dans les petites choses qui viennent là tous les jours de la vie. Puis vous avez la chambre à coucher. La chambre à coucher, c'est là les choses où il y a les choses un peu intimes. C'est celle qui reste des fois fermée. Les choses, des fois, sont faites en secret dans la chambre à coucher. Oui, dans l'intimité de nos vies, on est appelé en tant que disciples à ouvrir la porte au Seigneur, qu'il vienne aussi et que sa parole vienne éclairer aussi les choses qui se font en secret dans notre vie, les choses intimes. Vous pouvez ouvrir la cave, vous avez compris aussi. La cave, c'est peut-être où sont enfouis les souvenirs, les blessures de la vie, les choses qui sont passées peut-être il y a des années, mais qui sont encore là pourtant, dans l'esprit, dans le cœur. Il y a peut-être des choses qui saignent encore du passé, qui sont là. Là aussi, on est invité à les ouvrir au Seigneur. Peut-être le grenier. Alors le grenier, on peut y mettre aussi les souvenirs, mais là, dans mon image, j'y vois aussi peut-être quelque chose qui est un peu en haut dans la maison, peut-être des rêves, peut-être nos rêves, nos espoirs dans la vie, des choses, on est invité aussi à les donner au Seigneur. En tant que disciple du Seigneur, la parole, demeurer dans la parole du Seigneur, c'est faire pénétrer la parole du Seigneur dans tous les recoins et les pièces et sous-pièces de notre être intérieur. La parole de Dieu dans l'évangile de Jean, elle est présentée à la fois comme effectivement ce que le Seigneur va dire, ses instructions, ses commandements, mais aussi sa personne. l'évangile commence par nous présenter que Jésus est la parole de Dieu et qui est venu, qui s'est fait chair au milieu de nous, habité au milieu de nous. Jésus lui-même est appelé cette parole. Et d'ailleurs, dans la suite, on parle de la parole, demeurer dans la parole. Et puis, vous serez instruits, si on peut passer à la suite du verset, vous connaîtrez la vérité. Et juste quelques chapitres d'après, Jésus se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Donc, cette vérité, cette parole, c'est aussi Jésus lui-même, pas que ses instructions. Jésus lui-même, dans lequel on est invité à être en relation personnelle avec le Seigneur. Alors, un disciple, c'est celui qui suit son maître, qui est en relation particulière, vraiment intime avec son maître, et on vient effectivement de l'illustrer en commentant ce verset. Alors, pour les disciples, Pierre, Jacques, Jean, qui ont vécu avec lui il y a 2000 ans, le maître, il était visible. Quand les gens pouvaient voir cette foule, c'est ce groupe qui se déplaçait avec son maître, il était identifié au maître et on voyait très bien qui étaient les disciples du Seigneur. Le maître était là, physiquement et visiblement. Et puis, le maître est parti. Il a laissé le Consolateur, le Saint-Esprit, mais le maître physiquement est parti. Et du coup, comment on peut reconnaître maintenant, pour les gens qui regardent de l'extérieur, comment, alors que le maître physiquement est parti, on peut reconnaître maintenant le groupe de disciples? Et c'est une suite de l'instruction du Seigneur sur qu'est-ce que c'est que l'identité d'un disciple. Et je vous invite à tourner quelques pages et on va dans le chapitre Jean au chapitre 13. Et on va lire à partir du verset 34. 34 et 35. Jean, chapitre 13, verset 34-35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà un autre aspect de l'identité du disciple qui est présenté par le Seigneur. On a changé de contexte dans lequel on est en train de... La scène est un peu différente. On est dans une discussion privée. On est dans les quelques heures avant le sacrifice du Seigneur à la croix. Le Seigneur a regroupé ses intimes, ses disciples autour du dernier repas. Et il est en train de leur donner les dernières instructions. Il a commencé d'ailleurs pas en parlant, mais en faisant un geste très très fort qu'il voulait transmettre à ses disciples. Il leur a lavé les pieds. C'est ce chapitre 13 où on voit le Seigneur qui va s'abaisser comme le Seigneur serviteur qui va laver les pieds de ses disciples. Et il va leur transmettre cette instruction. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alors si on a déjà lu un petit peu le début de l'histoire et du livre de la Bible, on peut se demander mais en quoi ce commandement est nouveau? Parce que aimez-vous les uns les autres, c'est déjà une instruction dans la loi de Moïse. Et donc, il n'y a rien de nouveau juste dans « aimez-vous les uns les autres ». Et on peut d'ailleurs, le Seigneur lui-même a dit qu'on pouvait résumer la loi de Moïse par ces deux commandements, « aimer Dieu » et « aimer son prochain ». Donc, le nouveau, l'aspect nouveau n'est pas là. Il est dans une autre subtilité de l'instruction du Seigneur. Le Seigneur dit « aimez-vous les uns les autres » comme « je vous ai aimé ». Il est en fait dans le « comme ». Ce petit mot-là, dans lequel il y a quelque chose qui caractérise encore plus, qui précise ce « aimez-vous les uns les autres », ce commandement du Seigneur. Alors « comme », le mot en grec qui est derrière, a deux types de signification. Il est une signification qui est évidente en français, qui est « comme », c'est une similitude, une image, un modèle. Et il y a une vérité là, que le Seigneur est effectivement un modèle d'amour, dans lequel les croyants, ses disciples sont encouragés à suivre l'exemple du maître. Mais c'est qu'un aspect du petit mot « comme ». Le petit mot « comme » en grec a aussi un aspect qui est un aspect de conséquence, de « parce que », en fait. On pourrait le traduire aussi par « parce que ». Aimez-vous les uns les autres parce que je vous ai aimé. Jésus, ce n'est pas qu'une question de modèle. C'est une question de celui qui permet que les choses soient là. Et c'est parce que, par son œuvre évidemment, par son exemple, et plus qu'un exemple, la croix n'est pas qu'un exemple, la croix bien plus qu'un exemple, Et en fait, la solution que Dieu seul pouvait fournir, et que nous, on était incapables de pouvoir trouver une solution. Et de nos cœurs seuls, sans l'Esprit de Dieu, sans l'œuvre du Seigneur Jésus pour racheter nos péchés, nos cœurs, nous réconcilier avec le Seigneur, il n'est pas possible, en fait, d'aimer comme Dieu voudrait que l'on aime. Il y a quelque chose qui vient, et Jean le répétera dans ses épîtres, hein, c'est Dieu qui a aimé en premier. Et puis il a fait à la croix un acte d'amour tellement fort et qui rend possible. Et l'Épître aux Romains va dire que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Et que c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui peut ressortir. Le disciple peut aimer, non pas par ses propres forces. Nous, nos cœurs sont des fois bien vides, bien secs. Et puis ont été vidés par les épreuves de la vie. Il peut y avoir des tas de raisons de ne pas être capable, en fait, par soi-même d'aimer. Mais le disciple, lui, prend une source qui vient du Seigneur et par le Saint-Esprit va être rempli de l'amour de Dieu. Il n'y a que ça comme possibilité quand les choses sont difficiles, quand il n'y a aucune raison en réalité d'aimer, de pardonner, que les choses ne peuvent venir que du Seigneur. Le disciple est caractérisé par ça, une source en fait d'amour qui peut venir uniquement du Seigneur. D'ailleurs, vous aurez remarqué que le commandement du Seigneur, « Aimez-vous les uns les autres », est encadré, il y a « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi », et c'est répété « aimez-vous les uns les autres ». Le « aimez-vous les uns les autres » encadre, en fait, le « comme je vous ai aimé » ou « parce que je vous ai aimé » qui est au centre. Le centre, c'est le Seigneur. C'est lui qui rend les choses absolument possibles. Alors ça a évidemment une dimension qui est cette marque d'amour. On est invité à avoir une dimension collective. Je parlais tout à l'heure de personnes d'un regard extérieur qui voient le groupe de disciples et comment ils reconnaissent que ce sont les disciples du maître. Eh bien, cette marque d'amour, elle est comme un poinçon, elle est comme une identité qui est là. Alors, les pères de l'Église l'avaient aussi souligné. Des fois, on a un petit peu honte de l'histoire de l'Église. On se dit, les chrétiens, oui, à de nombreuses reprises dans l'histoire, n'ont pas fait quelque chose qui était à la gloire de Dieu. Ils n'ont pas montré l'amour du Seigneur. Et au contraire, et on pourrait parler de beaucoup d'épisodes de l'histoire. Mais ça n'a pas toujours été quand même le cas. Il y a ce témoignage de Tertullien, qui était un commentateur et apologète, un défenseur de la foi chrétienne à la fin du IIe siècle, et qui dit, mais... Il parlait du témoignage de gens du dehors, de l'extérieur, qui disaient « Regardez comme ils s'aiment !» et qui était un encouragement, en fait, à dire à une défense de la foi chrétienne. Et un témoignage que, oui, dans l'histoire, des fois, en montrant cet amour de relations collectives, fraternelles, eh bien, certains ont remarqué que ça pouvait aussi pointer vers le maître. Dans ces marques, des fois, il peut y avoir comme des marques de famille. Quand il y a une famille génétique qui a des enfants de manière génétique, des fois, il y a des traits de ressemblance qui font que quand on a vu les parents, les grands-parents, les petits-enfants, on sait que ça appartient à cette famille. Il y a vraiment une caractéristique physique reconnaissable d'appartenance à la famille. Alors, dans la famille de l'Église, on n'a pas de lien génétique comme ça. Alors, il peut y en avoir, mais ce n'est pas ça la marque. On pourrait dire que la famille de l'Église est plutôt une famille recomposée, avec tout ce qui a pu se passer, aussi de difficile dans les vies de chacun. Et puis, c'est le Seigneur qui nous rassemble. Rassembler de tellement d'origines différentes, de cultures différentes. Et ce matin, encore, on est le reflet de cette diversité de chacun par chacun de nos histoires. Pourtant, on est rassemblés par le Seigneur. Et on constitue une famille. Une famille qui est là avec une marque qui n'est certes pas la marque que l'on voit au niveau de nos traits physiques, mais qui est la marque qui peut ressortir de quelque chose, qui est une empreinte du Seigneur, qui peut ressortir. Et s'il y a de l'amour les uns envers les autres, dans une assemblée, il y a quelque chose qui est là, un poinçon des disciples du Seigneur. Et il y a quelque chose qui peut être reconnu de la part du Seigneur. Un disciple, c'est donc quelqu'un qui, dans son identité, demeure dans la parole de Dieu, demeure dans cette proximité avec le Seigneur et n'est pas appelé à vivre une vie seule. Ce n'est pas un ermite chrétien. C'est appelé à vivre collectivement quelque chose dans lequel il y a une marque collective de la famille des disciples qui est cet amour les uns envers les autres. Alors le Seigneur va continuer. Dans ce même discours, la soirée va être un peu longue, Et on tourne deux chapitres et on peut arriver au chapitre 15 où le Seigneur continue son instruction sur qu'est-ce que c'est qu'un disciple. Et on peut lire chapitre 15 et on peut commencer au verset 5. 5 à 8. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Le Seigneur continue son instruction. Les choses ont continué. On est juste après, on s'approche des moments de la croix. Judas est parti. On se retrouve avec, dans le moment intime avec les disciples. Et le Seigneur continue son instruction. Il dit des choses fortes. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Quelque chose qui caractérise un disciple. Un disciple déconnecté du maître ne peut rien faire. Ne peut pas porter des fruits qui sont à la gloire de Dieu. Les prières ne sont pas nécessairement éloignées du maître. Nos prières sont éloignées de la volonté de Dieu. C'est en ça que le terme, si vous êtes connecté au CEF, vous connectez à Dieu en disciple, vos prières vont s'aligner avec la volonté de Dieu et les prières s'accompliront parce qu'en fait, elles sont complètement liées à la volonté, à la volonté de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est un peu comme on a beau être le téléphone portable plus haute technologie possible, si vous ne le branchez pas, peu importe la technologie embarquée, que ce soit le dernier iPhone ou un iPhone qui a déjà 15 ans, peu importe, ça sera pareil. En fait, vous ne serez pas branché. Et pas branché, jusqu'à présent, un téléphone, ça ne sert à rien une fois que la batterie est vide. C'est un peu pareil, un disciple qui n'est pas branché avec le maître, il ne peut rien faire. Alors, l'image que le Seigneur lui-même a prise, évidemment, ce n'était pas le téléphone portable, il y a 2000 ans, il a pris cette image agricole de la vigne, du cep et des sarments. Et là, on a quelque chose de beau dans cette connexion. Oui, effectivement, les sarments dans lesquels, qui vont porter effectivement les grappes, qui vont porter les fruits, déconnectés effectivement du cep. Alors, je sais qu'il y a des grands spécialistes ici dans la salle du monde végétal. Mais si on se rappelle des vieux cours de biologie, on nous a appris qu'il y avait des vaisseaux, qu'il y avait de la circulation dans les plantes, et qui, d'ailleurs, dans plusieurs directions. Alors, il y a les vaisseaux de xylème qui partent des racines et qui vont monter. Ils sont unidirectionnels, ils vont que dans une direction, souvent de manière ascendante, et qui vont puiser l'eau, les sels minéraux, des éléments absolument essentiels de le sang pour monter dans les feuilles, les bourgeons, et apporter tout ce qui est nécessaire, cette sève brute qu'il a, qui monte dans ces vaisseaux, et qui sont obligés de passer par les racines du cep et le cep lui-même avant de partir dans les sarments. Il existe une deuxième circulation dans les plantes qui, elle, est multidirectionnelle. Elle part une fois que les choses sont arrivées, que des fruits sont portés, des choses qui sont transformées dans des endroits, des plantes, et puis avec par des mécanismes très connus dans cette salle, peuvent être redistribués de partout. Avec une sève qui est mature, qui porte et qui peut être des échanges non seulement ascendants, mais aussi horizontaux, dans lesquels, entre feuilles, entre fruits, on peut se passer des choses qui peuvent avoir été maturées. Quelle belle image, je trouve, de la dépendance du disciple au Seigneur. On a besoin d'être connectés. Et si on veut avoir une vie d'encouragement les uns avec les autres, que d'une feuille à l'autre de la plante, que d'un sarment à l'autre de la plante, il puisse y avoir des choses qui circulent, que cet amour qui caractérise les disciples puisse circuler, puisse être vécu, il faut nécessairement que les sarments soient connectés au cep et qu'il y ait cette sève brute qui puisse monter. Sinon, il n'y a pas de circulation de quoi que ce soit. Et les sarments sèchent, Et ils sont effectivement ils sont utiles jusqu'au feu. Il n'y a aucune utilité là derrière. Voilà une belle image du Seigneur qui nous enseigne encore sur les disciples. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? Un disciple qui est intimement connecté. On peut voir une image aussi du Saint-Esprit dans cette sève qui va circuler effectivement et qui est là, qui est ce que le Seigneur a donné effectivement aussi à son Église et à ses disciples. Voilà trois instructions du Seigneur qui nous rappellent qu'est-ce que c'est que l'identité d'un disciple de Jésus. Quelque chose qui va au-delà d'un simple mot chrétien qui pourrait être juste une identité sociale, le fait de vivre dans une famille chrétienne ou on est membre d'une église et qui pourrait définir juste l'identité de chrétien. Il y a quelque chose de plus qui nous est donné comme instruction ici avec ce mot « disciple » dans lequel ce disciple demeure dans la parole du Seigneur. Il est attaché comme un cep avec les sarments. Il va venir se nourrir de ça. Et puis, pour manifester quelque chose qui est une identité de ces disciples, cet amour qui est une marque de fabrique des disciples du Seigneur Jésus. Beaucoup de choses pratiques pour nous peuvent en découler, évidemment. Cette vie dans laquelle on est encouragé à vivre, au-delà d'une étiquette, au-delà d'un petit signe de chrétien, de vivre comme des disciples. On a souvent un petit peu tendance à, dans nos vies, à avoir... C'est humain d'avoir les projets, nos directions, de construire un petit peu comment la vie, comment on voudrait. Et en tant que chrétien, on dit « Oui, mais Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans mes projets. Viens dans mes idées. Viens avec moi comme un peu un porte-bonheur. Un peu le gris-gris qui va faire réussir mes projets. » Et Jésus, des fois, c'est un peu ça. C'est celui qu'on embarque, mais bon, pour que ça marche. Mais en fait, ça reste moi derrière. Alors que le disciple, c'est toi. On est encouragé à vivre les choses dans lesquelles on est connecté, mais pour que ça soit à la fin les projets du maître. Parce que le maître, on a confiance. C'est pas un maître esclavagiste. C'est le maître serviteur qui a lavé le pied de ses disciples, qui leur veut du bien à ses disciples. Et donc, c'est dans la confiance d'un maître qui nous veut du bien qu'on fait confiance et qu'on dit « Montre-moi le chemin que tu veux pour moi. » Et là, le Seigneur, ce n'est pas juste on l'embarque dans nos vies, c'est nous. On veut être embarqués dans les projets du Seigneur. Et là, ce disciple est effectivement embarqué. Ça veut dire, en pratique, qu'il y a une question de connexion. Et là, dans nos agendas, il est où le rendez-vous avec le Seigneur ? Alors, bien sûr qu'on peut vivre la vie du Seigneur, ce n'est pas uniquement les moments où on prie, où on lit la parole de Dieu. On est encouragé à vivre beaucoup, tous nos aspects de la vie, connecté effectivement avec le Seigneur. Ce qui veut dire qu'on n'a pas toujours la tête fixée dans une Bible, c'est vrai, même si il y a des moments, la parole de Dieu, elle est là, c'est pas pour rien qu'on appelle la Bible la parole de Dieu, il y a des moments où on a besoin d'être connecté. Où est le rendez-vous dans notre agenda ? Il y a le rendez-vous chez le médecin, il y a le rendez-vous peut-être chez le banquier, il y a peut-être les rendez-vous professionnels, etc. Il y a tout le monde, on a ou sur le téléphone ou papier, il y a un calepin. Est-ce qu'on a écrit « rendez-vous avec le Seigneur » qui est un des moments de connexion privilégiée dans lequel on vient se ressourcer au pied du maître. Et là, les éléments de grâce que sont la parole de Dieu, la prière et la communauté, la vie d'église, de venir au rendez-vous du dimanche matin au Seigneur, avec le Seigneur, venir être rassemblé. Il y a quelque chose qui est là dans la nourriture spirituelle qui va nourrir collectivement. On a vu que le disciple, ce n'était pas quelqu'un qui était appelé à vivre la vie seul, individuel. Il est appelé à la vivre collectivement avec le Seigneur, même si l'Église, elle existe de manière rassemblée le dimanche matin, mais elle existe dispersée dans la semaine. Mais ça n'empêche pas que ça soit l'Église quand même. Même si elle est dispersée, chacun a la place où le Seigneur nous a placés, que ce soit à l'école, au travail, dans le quartier, à la maison, etc., où chacun est placé à ce moment de vie avec le Seigneur. Et là, on est encouragé à vivre ces aspects de la vie de disciple. Alors, on a un dimanche matin, mais il va y avoir lundi matin, demain matin, on est encore les disciples du Seigneur. Et donc, il y a un encouragement à vivre même les choses. Alors, je sais que pour mardi, j'ai un gros dossier à rendre pour le boulot. Comment je peux le vivre en tant que disciple ? On pourrait dire, ça n'a rien à voir, c'est dans ma vie qui ne concerne pas Dieu, ça. Non, c'est pour le boulot séculier où j'ai affaire, mais pourtant, je suis aussi disciple du Seigneur dans ce boulot séculier. Est-ce que je veux le faire en suivant la parole de Dieu ? Est-ce que la parole de Dieu veut pénétrer dans ce boulot ? C'est-à-dire que je vais le faire comme pour le Seigneur. avec le zèle comme pour le Seigneur. Que le Seigneur vienne m'aider dans ce travail que j'ai à faire, pour ne pas le négliger, parce que c'est aussi, je veux le faire, avec la parole de Dieu et ses instructions, ses commandements, qui me disent ben, « Non, je ne vais pas le faire avec fainéantise, je vais le faire encouragé par les instructions du Seigneur. » Et puis, je veux le faire dans l'amour. Donc, est-ce que je pense que peut-être que si je le fais, ça va aider dans le boulot, peut-être l'équipe, peut-être qu'il y a quelque chose. Comment je peux transmettre quelque chose de l'amour dans le boulot pourtant que je dois faire pour mon travail? Et puis, peut-être ça peut se faire avec l'amour des frères et sœurs. Parce que si je vous le dis, vous allez peut-être prier pour moi pour ce travail. Et donc, si vous priez pour moi pour ce travail, et que je peux prier aussi pour vous et ce qui est vos préoccupations, entre frères et sœurs, si on peut s'accompagner, il y a quelque chose de là, de l'ordre, on appelle ça d'ailleurs le discipulat. Il y a quelque chose de vivre la vie de disciple, qui est une vie en fait d'encouragement, les uns avec les autres, des choses très concrètes. Un amour en fait qui est très concret, de se soucier des choses pratiques les uns avec les autres. Et je peux le vivre comme disciple du Seigneur. Et puis je veux le vivre, je sais que par moi-même, je n'ai pas les forces. Je n'ai pas les forces de le vivre avec cette excellence d'amour, cet idéalisme qu'on pourrait dire, ou avec toujours faire parfait au boulot. Non, j'ai pas les forces. Je peux pas. Moi, le boulot, ça reste. Il reste ce boulot, ce dossier à faire. Il a sa pénibilité. Il a son côté. On pourrait vouloir s'en passer aussi. Pourtant, il est là. Et j'ai besoin de la connexion avec le Saint-Esprit, le Seigneur, pour aller puiser cette sève brute pour m'aider dans cet exemple concret. Et vous pouvez prendre chacun qu'est-ce qu'il y a au programme cette semaine dans votre vie, et vous êtes appelé à vivre comment ce quotidien de la semaine qui arrive en tant que vie de disciple. Alors je vais terminer là, mais qu'on soit encouragé vraiment à vivre cette vie, pas juste de chrétiens nominaux avec un nom dans lequel on peut avoir une étiquette, mais que ça veut dire quelque chose d'être disciple du Seigneur Jésus. Demeurer dans la parole du Seigneur. Être identifié comme étant ayant de l'amour qui vient du Seigneur Jésus, les uns avec les autres. Et puis connecter comme les sarments qui sont connectés au cep, liés pour être nourris par le Seigneur dans notre vie au quotidien de disciples. Que le Seigneur nous vienne en aide. Qu'il bénisse sa parole.